Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire dédié aux neurosciences et à la relation client. Alors, aujourd'hui, on est deux pour vous donner des conseils et des astuces. Le premier, notre expert national ou international plutôt, puisque Marc est d'origine luxembourgeoise. Marc, je te laisse te présenter.
Bonjour à tous d'abord. Ça fait, je préfère toujours quand on voit les gens, mais bon voilà. Donc je vois Christophe, Yves, etc. Donc bonjour à tous. Donc en fait, je suis effectivement expert, enfin expert, en tout cas spécialiste dans tout ce qui est neurosciences appliquées. Donc c'est comment utiliser concrètement des informations qui proviennent des recherches des neurosciences pour les appliquer dans le monde du business avec deux particularités. C'est vraiment de travailler sur la performance, donc performance digitale ou commerciale. Et donc là, je vais vous montrer aujourd'hui, on va en parler deux exemples de ça. Et puis, la manière d'y arriver, c'est une compréhension approfondie des comportements humains, donc qui passe par les renseignements des neurosciences. On ne va pas beaucoup parler de cerveau, je ne vais pas vous montrer de zone de cerveau aujourd'hui, ce n'est pas le but. C'est de vous montrer des choses plus pratiques, mais tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est vrai, effectivement, on parle beaucoup de l'IA, etc., mais le cerveau humain, la connaissance du cerveau humain est une des choses qui fait une très grosse différence en termes de performance dans les entreprises. Donc voilà. Voilà, Fred.
Ah là, tu vas nous en dire d'ailleurs un petit peu plus juste après. Et donc, il y a Christophe qui nous dit, est-ce qu'on est obligé de dire qu'on est très nombreux? Est-ce que c'est de la preuve sociale? Oui, un petit peu, puisqu'en fait, là, tu dis, ouais, si on est tous ensemble là, c'est que finalement, c'est quelque chose de super intéressant, super pertinent. Et je suis sûr que vous allez apprendre des choses vraiment intéressantes. Donc, moi, je me présente, je suis Frédéric Canevet, je suis chef de projet digital chez Locan, et je vais vous présenter Locan un peu plus après. Donc justement, qu'est-ce qu'on va voir ce matin? On va essayer de tenir en 45 minutes, même si je sais que Marc est bavard et moi aussi, donc on risque de déborder, mais ne nous en voulez pas, et de toute façon, vous aurez les slides et les replays à l'issue de ce live. Voilà. L'intérêt d'être en live, c'est tout simplement que vous allez pouvoir poser vos questions et on y répondra à la fin de la présentation. J'en prendrai peut-être une ou deux en cours, donc n'hésitez pas. Donc, ce qu'on va voir d'abord, c'est à propos des Locans, qui on est et pourquoi on organise ce webinaire. Et ensuite, Marc fera une conférence sur les neurosciences sur la relation client avec deux exemples appliqués, un dans le domaine de banque-assurance et un dans le domaine de l'assurance tout court. Mais c'est vrai que tu pourras également nous parler de d'autres secteurs d'activité puisque tu as travaillé dans des secteurs très divers.
Oui, n'hésitez pas
Ensuite,
d'ailleurs, puisqu'on est là pour vous. Donc, si jamais vous avez des questions autres que les exemples, n'hésitez pas.
ouais, c'est vrai que c'est ça qui est le plus intéressant. Et moi, après, je vous montrerai en fait une application pratique des neurosciences dans la relation client. Alors, on est qu'au début, on va dire que c'est une première étape. Et c'est vrai que on aimerait le développer encore plus. Et bien sûr, donc, cette session de questions-réponses à la fin. Donc, quelques mots sur Eloquent. Donc, Eloquent, on est éditeur de solutions de centre de contact et d'enquête de satisfaction. C'est plus de 20 ans qu'on existe. Donc, on a plus d'une centaine d'experts qui sont à votre disposition, qui vous aident à mettre en place donc, ces solutions d'enquête de satisfaction et de centre de contact. On gère à peu près un demi-milliard d'interactions chaque année, du chat, du mail, du téléphone, du chatbot, du callbot, du SMS, du RCS. Bref, tous les canaux. Et on est également aussi éditeur d'enquête de satisfaction. Lorsque vous allez dans une boutique ou que vous faites un appel téléphonique après, par exemple, une conversation avec la Maïf, avec la Massif, avec la MNT, et ben en fait, juste derrière, c'est Eloquent qui vous envoie l'enquête de satisfaction et on en envoie à peu près 150 millions à l'année. Donc, notre but, nous, c'est de vous aider à valoriser votre relation client avec un moteur, en fait, un orchestrateur qui vous permet de gérer des interactions sur différents canaux, piloter, superviser votre relation client, automatiser quand il le faut et faire de l'analyse. Donc, soit des verbatims des enquêtes de satisfaction ou des verbatims des conversations téléphoniques, comme disait Marc. C'est en fait dans toutes ces conversations, dans tous ces signaux, dans tous ces échanges, on arrive justement à capter cette richesse qui va nous aider à nous adapter et à utiliser les neurosciences pour réduire des problèmes. Ah, il y a David qui me pose une question intéressante qui dit, la question fondamentale, c'est des neurosciences pour l'application de la relation client à l'ère de l'IA. Oui, c'est très juste. Et c'est ce que je dirais à la fin, c'est que plus il y aura d'IA, plus les interactions humaines seront importantes parce que les gens, ils ont déjà eu un robot, ils ont une solution ou pas. Et donc là, quand on aura la personne qui sera en face, on ne pourra plus se permettre de louper l'échange, de pas être vraiment à l'écoute, pas juste entendre la personne, mais écouter et comprendre ce qu'elle dit. Et ça, en fait, c'est tout l'intérêt des neurosciences que vous indiquera Marc. Donc, nous, notre intérêt, voilà, c'est de vous aider à mieux gérer la satisfaction de vos clients, gérer l'omnicanal et avec la protection des données. Et voici quelques-uns de nos clients. Vous verrez, dans le secteur banque, mutuelle, assurance, on a beaucoup de clients dans le transport, dans l'énergie, dans les télécoms, dans l'industrie, bref, dans tous les secteurs d'activité. Alors, Marc, je te laisse peut-être commencer ta présentation en nous rappelant un petit peu ce que c'est les neurosciences.
Oui, mais d'abord merci à David parce que je pense que effectivement tout est dit dans la phrase et c'est fondamental parce que les neurosciences aujourd'hui en fait on les voit un petit peu souvent liées au neuromarketing, à des choses de manipulation, etc. Moi je voulais juste recadrer les choses au démarrage. Les neurosciences en fait ont une chose qui est absolument extraordinaire qu'elles nous apprennent aujourd'hui, c'est à mieux comprendre la grammaire cérébrale. Ce n'est pas à rentrer dans le cerveau de quelqu'un, ce n'est pas à commencer à penser à sa place, etc. Mais ça permet de mieux comprendre dans un comportement que l'on a, et ça dans toutes nos vies, peu importe le secteur dans lequel vous bossez. Je voyais tout à l'heure Christophe qui disait qu'il travaille dans la formation, etc. Dans tous les domaines, que ce soit de l'industriel, etc., dès qu'on a un humain en face de soi, on a face à soi une machine qui est à l'intérieur du crâne de la personne, qui est juste extraordinaire, qui est à peu près le même que le nôtre, et qui, en fait, on n'a jamais reçu le mode d'emploi. Donc, quelque part, depuis des millénaires, on avance en tâtonnant, en essayant avec des heuristiques. Tiens, mais si je fais ça avec quelqu'un, il fait comme ça. Mais là, maintenant, depuis 20 ans, c'est terminé ce moment-là. On arrive vraiment maintenant à avoir une grammaire et qui permet de pouvoir faire des choses très intéressantes. C'est ça que je vais essayer de vous montrer un petit peu aujourd'hui. Donc, je vais vous prendre l'exemple de la branche d'assurance d'un groupe bancaire et deux projets. Donc, un digital où on a augmenté la conversion x4 et je vais vous expliquer comment. Alors, de nouveau, le chiffre n'est pas important pour vous. Vous n'êtes pas dans cette boîte-là. Ce qui est important, c'est comment on y arrive. Et donc, je vais essayer en 20 minutes. Je ne peux pas vous expliquer 20 ans de passion ou des missions en 20 minutes, mais au moins vous donner quelques clés. Et puis, un projet commercial aussi où on a augmenté 30%. Les ventes stabilisées en 6 mois. Donc, et ça, c'est pas de la magie. Vraiment, c'est pas quelque chose où j'ai des équipes plus malignes que les autres. C'est juste que on a aujourd'hui dans nos équipes une connaissance au niveau des neurosciences appliquées qui est vraiment intégrée dans l'équipe. Et je pense que dans n'importe quelle organisation, on peut le faire. Mais il faut le faire. Parce qu'on parle beaucoup d'outils, et on va en parler, mais on parle d'outils, mais c'est pas. Les outils sont importants, mais ce n'est pas le tout, quoi. Donc, ce qu'on voit en tout cas aujourd'hui, pour vous montrer l'importance d'un comportement, c'est que les clients vivent dans un monde aujourd'hui d'opulence, donc où on a tout accessible immédiatement, n'importe quoi. Donc aujourd'hui, le challenge n'est pas de trouver quelque chose, d'essayer de trouver quelque chose qui n'existe pas. Parce que tout existe. Vous cherchez un stylo bille vert avec des pois rouges, vous en trouverez un. Donc, le problème de ça, c'est quoi? Eh bien, c'est que si on passe au slide d'après, vous allez voir qu'on a en fait un nombre de choses autour de nous, dans notre environnement, qui a accru de manière exponentielle. Le nombre de produits aujourd'hui que l'on a à disposition est monstrueux. Donc, ça veut dire que les entreprises continuent à sortir des produits non-stop. C'est même compliqué de trouver des noms pour ces produits parce qu'il y a tellement qui sont déjà utilisés partout. Et nous, on baigne dans ce nombre de produits, on les voit. Même chose avec le nombre de services. Quand vous voyez simplement en quelques mois le nombre de services IA qui sont sortis, cloud pour enregistrer, enfin voilà, pour faire des vidéos, il y en a tellement. Le nombre d'informations, aujourd'hui, on est noyé. C'est partout, il y a de l'information non-stop. Avec des fake news, des bonnes, on n'a même plus le temps de faire la différence entre les deux. Le nombre de divertissements, on n'en a jamais eu autant. Franchement, quand je vois là, hier, j'étais encore sur HBO Max, puis je suis passé sur Netflix, etc. Et je me rends compte que même dans mes comportements, en fait, dès qu'il y a une petite chose qui ne me va pas, hop, je passe sur une autre. Le nombre de pubs, le nombre de marques, le nombre de technologies, les apps, etc. Et tout ça, en fait, fait que on vit dans un monde dans lequel on n'est juste pas câblé pour. Donc, il faut savoir que notre cerveau a évolué génétiquement. Évidemment, il a progressé génétiquement. Mais depuis 300 000 ans, l'adaptabilité humaine face aux technologies ou à ce qu'on vit maintenant, elle n'est pas du tout adaptée. Notre cerveau n'a juste pas évolué. Aujourd'hui, les scientifiques donc en génétique nous disent en fait que le cerveau ressemble notre cerveau actuel à un cerveau d'il y a à peu près 40 000 ans. Sauf qu'il y a 40 000 ans, le nombre de produits, de services, d'informations, de divertissements, de publicités, de marques, etc. n'était pas là. Et cette grammaire et cette chimie que l'on a à l'intérieur de notre cerveau, elle n'a pas évolué. À un moment donné, on n'a pas eu un upgrade en disant « Ah bah tiens, super, tiens, on passe du cerveau version 24 à 25 parce qu'on a l'IA qui sort. » Non, 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 on continue à rester avec nos limites. Et le problème, c'est que ces limites viennent pousser sur notre système cérébral normal, hein, qui lui n'est pas fait pour fonctionner comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a de moins en moins de disponibilité, et les clients aussi. On est de plus en plus exigeant, les clients aussi. On a de moins en moins d'attention. Là, je suis occupé à faire une mission pour un grand groupe bancaire. Aujourd'hui, dans leurs équipes, au niveau mondial, le temps qu'ils sont capables de travailler de manière non interrompue sur un dossier profond, c'est une heure par jour. Tout le reste, il y a 5 heures de réunion minimum par semaine. Il y a partout, on est dérangé plus de 200 fois par des Teams, des mails, etc. Et on n'a pas un cerveau qui est fait pour. Donc, du coup, ce qui se passe aussi, moins d'attention, moins d'engagement aussi. On est moins fidèle, il y a moins de patience, il y a beaucoup plus de doutes qui apparaissent, etc. Et vous voyez bien que ces quelques exemples que je vous montre là ont un impact sur votre comportement au quotidien. Par exemple, aujourd'hui, l'IA, tout le monde va se poser la question de savoir mais qu'est-ce que va devenir mon métier, etc. Donc, les doutes augmentent. Et les doutes, c'est une zone du cerveau qui est spécialisée là-dedans. Donc, le problème de ça, c'est que donc, toutes ces zones fonctionnelles, si on ne les connaît pas, eh bien, on va se retrouver avec une espèce de… On est submergé. Les entreprises n'arrivent pas bien à savoir non plus comment bouger. On parlait tout à l'heure de formation. Mais aujourd'hui, une formation, moi, je le vois dans partout… La majorité des formations, des grands groupes, ils me disent, on a un gros problème, Marc, c'est que quand on donne une formation, les gens viennent pendant une journée, ça nous coûte très cher de les déplacer, ils viennent, quand ils arrivent au bout, ils disent qu'ils ont appris des choses, et le lendemain, ils les mettent en pratique pendant 2-3 jours, et puis ils arrêtent. Et ça, typiquement, si on ne connaît pas la grammaire cérébrale, le fonctionnement, comment les zones vont se mettre en place, quelles zones il faut toucher pour mémoriser le mieux, etc., eh bien, en fait, on va se retrouver de plus en plus avec ce que vous voyez là, c'est-à-dire des choses compliquées. D'où l'importance de ce que David disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les neurosciences que ça peut apporter, ce n'est pas des techniques, ce n'est pas des trucs et astuces, c'est une compréhension de la grammaire cérébrale, et rien que ça, ça permet déjà de faire énormément de choses. Alors, quand vous voyez aujourd'hui en chiffres ce que ça donne, bah, une entreprise, en fait, souvent, elles disent tous que l'expérience client est stratégique, etc. Elles ont des divisions expérience client, tout le monde est dedans, etc. Elles sont persuadées d'offrir des expériences gratifiantes. Et quand on voit dans la réalité, donc c'est une étude qui a été faite par IBM, eh bien, en fait, on se rend compte que les clients disent à 80%, ils ne me comprennent pas. Alors, le problème de ça, c'est que pourquoi est-ce qu'ils disent qu'on ne les comprend pas alors que l'autre, de l'autre côté, ils pensent avoir dit les choses qu'il fallait? Eh bien, tout simplement parce qu'on continue à croire qu'en fait, il suffit de dire à quelqu'un ce qui se passe et ou ce qu'il doit faire, et le mec va comprendre et va mettre en application. Et donc, la question fondamentale, c'est où ça se passe réellement? Alors, je parle de relations clientes, mais c'est la même chose pour la vente, c'est la même chose pour de la formation, etc. Est-ce que ce que vous faites se passe dans vos agences, sur votre parcours digital, sur le CRM, etc., dans votre centre de contact, ou bien est-ce que ça se passe dans le cerveau des clients? Alors, je vois David qui dit excellente expression grammaire cérébrale. En fait, David, juste pour faire rapidement, donc on a aujourd'hui recensé à peu près 180 fonctions cérébrales différentes. Ça a été fait en 2023, la dernière recherche qui a été effectuée. Et en fait, les différentes fonctions à l'intérieur du cerveau ont une fonction particulière. Donc, par exemple, une fonction de « j'aime bien », ce n'est pas la même fonction, ce n'est pas le même endroit localisé dans le cerveau que je n'aime pas. Or, nous, en conscience, on met ça dans des évaluations. D'ailleurs, on demande aux gens est-ce que vous aimez bien, est-ce que vous n'aimez pas, etc., sur une même échelle. Alors qu'en fait, c'est deux fonctions cérébrales différentes. Ce serait mieux de poser la question à quelqu'un en disant quel est le seuil de ce que vous n'aimez pas et de lui poser 50 lignes plus loin, est-ce que vous aimez bien. Là, on commence à parler à des zones cérébrales différentes. Et donc, cette grammaire, elle existe, elle est documentée. Donc, après, il faut connaître encore ça, c'est un petit peu le travers, c'est qu'il faut quand même comprendre un peu les fonctions. Je vais vous en montrer juste quelques-unes, David, comme ça vous verrez un peu. Mais si vous voulez aller plus loin, je peux même vous donner des endroits où vous pouvez aller regarder, essayer de comprendre, etc.
Ouais, mais c'est très juste ce que tu dis, hein, parce que certains de nos clients mesurent comme d'habitude la satisfaction, mesurent le Net Promoter Score, donc le fait qu'on soit promoteur. D'autres mesurent ce qu'on appelle le CES, Customer Effort Score, donc l'effort qu'on a mis pour faire une action. Et de plus en plus, nous, on voit certains clients qui mettent le Net, en fait, Net Easy Score, c'est-à-dire la simplicité qu'ils ont mis à mettre en place ou à faire un choix. Et on se rend compte que finalement, OK, la difficulté, c'est une chose, mais la simplicité et la facilité à mettre une chose, c'est autre chose. Et souvent, la simplicité est un meilleur facteur de fidélisation sur certaines marques. Et le Net Easy Score devient un indicateur encore plus important qu'auparavant.
Ouais, pour peut-être compléter avant de passer après, juste vous donner un ordre d'idée. Si on le simplifie à outrance, en fait, en gros, il y a à peu près 5 verrous. Je les ai appelés comme ça parce que ce sont des zones fonctionnelles dans le cerveau qui sont différentes. Donc, par exemple, quand vous voulez vendre quelque chose à quelqu'un ou que vous voulez solutionner un problème avec quelqu'un et qu'à la fin, la personne se dise « Ah, waouh, c'était vraiment intéressant, j'ai appris quelque chose et mon problème est solutionné. » Ou en vente, « Ah, ben, c'était vraiment très intéressant, j'ai appris quelque chose de nouveau, je me verrais bien avancer avec lui. » À l'intérieur du cerveau, souvent, on imagine qu'il faut pousser des éléments. Et souvent, quand on est dans une vente ou dans une relation client, le but, c'est de simplifier, c'est d'enlever. Il y a des verrous. Donc, par exemple, le premier verrou, c'est la pertinence. Tant que vous ne parlez pas au cerveau de la personne avec quelque chose qui l'intéresse, eh bien, ça ne marchera pas. Vous pouvez lui donner toutes les caractéristiques que vous voulez. Elle va vous les répéter en disant « Ah oui, donc ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. » Mais tant qu'elle ne dit pas « Ah mais oui, mais dans mon cas, ça donnerait ça alors ?» Là, on commence à avoir un verrou de pertinence qui est levé. Donc, le deuxième, c'est le verrou de la confiance. Donc, là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a une équation pour la confiance. Alors, on n'a pas le temps de tout traiter aujourd'hui, mais il y a une équation pour la confiance. Mais l'idée, c'est que tant que je ne me sens pas en confiance avec une personne, eh bien, ça va être très compliqué de m'engager. Et quand, par exemple, on entend dans les centres d'appel des scripts en disant « Bonjour, je m'appelle Véronique, comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui ?» On entend rien qu'au ton que je viens d'utiliser. Alors, c'est poli. Donc, les mots utilisés pourraient se dire, mais donc, regardez, c'est poli. Mais dans le sens de ce que la personne vient de dire, on sent bien qu'on l'ennuie. Et donc, à ce moment-là, par exemple, le verrou de la confiance ne va pas se déverrouiller. Un autre verrou qui est hyper important, c'est la projection. Tant que je ne me visualise pas avec le produit, la solution, etc. Or, le nombre de fois où on appelle des centres d'appel, ils essayent de nous donner une solution et ils ne nous projettent pas dans la suite de la solution, c'est une erreur parce que ça permet vraiment d'augmenter de manière mais phénoménale l'impression que la personne a, que l'on est en fait, qu'on fait attention à elle. Et la projection, donc, ce n'est pas du tout dans le même endroit. Donc, on a un pas rentrer dans les détails, mais il y a le gyrus singulaire en fait en postérieur qui en fait de la projection. Ce n'est pas la même zone fonctionnelle. Par exemple, si vous voulez, je donne quelques trucs rapides comme ça, hein, mais si vous voulez vraiment faire une enquête avec quelqu'un, demandez-lui, imaginons que, je ne sais pas, moi, c'est sur les assurances ou sur un crédit ou quoi que ce soit. Christophe demande comment on active la projection. Eh bien, donc, par exemple, quand on fait une enquête, demandez aux gens de prendre avec leur téléphone, avant de vous rencontrer, 3 ou 4 photos de ce que veut dire le sujet que vous voulez traiter. Donc, par exemple, si c'est le crédit immobilier, eh bien, demandez aux gens de prendre 3-4 photos avec leur téléphone, donc pas amener des photos toutes faites, mais d'amener des photos qu'eux ont prises. Et donc, quand on va commencer l'interview avec la personne, on ne va pas lui demander comment il faut faire, etc. On va lui dire, tiens, montrez-moi les 3 photos que vous avez prises. Vous en prenez une au hasard, parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans sa tête à lui. Donc, vous allez lui dire, OK, mais pourquoi est-ce que vous avez pris cette photo? Pourquoi est-ce que cette photo-là est plus importante que les 3 autres? Et là, vous allez commencer... Parce que la personne a pris elle-même la photo, c'est la zone, donc c'est les noyaux, c'est le gyrus singulaire postérieur qui va s'activer, dans lequel elle va se reprojeter dans la situation dans laquelle elle a pris la photo. Et là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous bypassez le filtre des réponses sociales, etc. Et ça permet d'avoir accès directement à des informations qui sont bien plus importantes que ce qu'elle va vous dire. Or, 99% des enquêtes que je vois encore aujourd'hui, elles sont basées sur des questions. J'ai un exemple là avec la grande banque là pour laquelle je travaille. Donc, les gens répondent parce qu'ils savent bien que c'est une enquête de la banque. Ils disent oui, j'utilise telle application sur mon mobile. Et dans les stats, on voit que, alors, quand je vous dis 96% des gens disent qu'ils l'utilisent, et dans les stats, c'est 0,39%. Alors, est-ce qu'on continue à croire ce que la personne dit parce qu'on l'a mal posé et parce qu'on n'a pas la grammaire. Mais donc, vous voyez en fait comment on peut… Alors voilà, Christophe demande comment reprojeter quelqu'un dans une situation qu'il a connue. On va le voir tout de suite avec les deux exemples que je vais vous montrer. On va en parler pour vous montrer.
Ouais. Est-ce que tu veux que je montre cette petite vidéo sur l'IRM ou pas?
Non, c'est pas nécessaire. C'était juste pour vous expliquer que, en fait, ce que les neurosciences nous enseignent maintenant depuis une vingtaine d'années, c'est justement cette grammaire. Est-ce que vous voyez là, ce sont des tests réels. Donc moi, j'en ai participé à plus d'une cinquantaine, dans lesquels en fait, j'ai eu la chance de pouvoir construire le savoir que j'ai et vérifier cette grammaire cérébrale avec des missions, donc pas des recherches scientifiques qui cherchent à traquer une zone, mais vraiment dans le cadre de vraies missions, comme par exemple sur MMA ou des choses comme ça, de savoir comment réagit le cerveau et quelles zones sont activées à l'intérieur du cerveau pendant qu'on présente un stimuli à quelqu'un.
Alors, Véronique, qui veut bien voir la vidéo sur l'IRM. Bon, allez, je vais la passer deux secondes, mais ça va pas être très fun. Bon, je laisse la passe pendant 10 secondes.
Pendant qu'on monte ça, Véronique, je réponds. Est-ce que je vais voilà. Pas me trouver sur le bord de la route
Marc, pendant qu'on était en train de passer la vidéo, ça a coupé le son. Donc là, ce que tu as dit pendant la vidéo, les gens n'ont pas entendu.
Pardon, mais en fait, j'expliquais à Valérie, donc je vais reprendre du coup. Donc les deux derniers risques, c'est le risque. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que je risque à prendre ce choix-là, à prendre cette décision. C'est aussi les doutes, hein, donc c'est le même principe. Et donc là, de nouveau, je vous parlais… du gyrus singulaire, qui est une espèce de petite virgule. D'ailleurs, on la voit en fait sur l'image là. Si vous regardez bien le cerveau au milieu à gauche dans l'illustration, vous voyez en fait toute une espèce de matière dans laquelle il y a différentes fonctions cérébrales. Et puis juste en dessous, vous voyez une espèce de petite zone un peu plus blanche. Et bien, entre les deux, donc on a en fait ce qu'on appelle le gyrus singulaire. Et qui en fait est tout ce qui est lié, je schématise vraiment, hein, mais tout ce qui est lié à moi. Donc, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que j'ai déjà vécu, etc. Et donc, la zone du doute, c'est une zone qui est hyper importante parce que tant qu'elle est activée, en fait, la personne ne passera pas à l'acte. Et ensuite, il y a la simplicité. Donc, Frédéric en parlait tout à l'heure. Mais si j'ai, par exemple, c'est très pertinent par rapport à moi le produit que vous faites, je suis en confiance, j'arrive à me projeter, je minimise les risques, mais par contre pour avoir le produit pour commander chez Eloquent, il me faut 3 mois parce qu'il faut passer par des étapes et des blablabla, je vais peut-être me dire ben non, je ne vais pas le faire. Évidemment ce n'est pas le cas, mais c'est pour vous montrer aussi que cette simplicité, c'est de nouveau pas la même zone cérébrale. Donc par exemple, quand on a des croyances aussi, donc ça aussi, là, je suis occupé à travailler sur une mission pour l'instant, ou dans un grand groupe, les vendeurs pensent que le produit qu'ils vendent est trop cher par rapport au marché. Ils n'ont aucune preuve de ça et ce n'est pas vrai. Mais en attendant, la croyance est là. Et la croyance, en fait, c'est le cortex préfrontal ventromédian et donc c'est celui en fait qui va filtrer la vérité. Donc, et en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, ce centre de la conviction, si vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, vous ne le ferez pas. Et donc, vous voyez, simplement ici, on a parlé de quelques zones. Imaginez, il y en a 180 comme ça. Alors, nous, on en utilise à peu près une quarantaine, pas les 180. Ce n'est pas nécessaire non plus dans le business. Mais vous voyez déjà rien qu'en quelques minutes, le niveau d'affinage de la discussion qu'on peut avoir autour d'un sujet. Ça peut être n'importe quoi, hein, même en management, en RH ou autre, quoi. Enfin, voilà. Donc, donc ben, pour vous montrer un petit peu, parce que j'aime bien vous faire ressentir les choses, donc, je vais vous demander, évidemment, je ne peux pas le voir, mais si vous voulez vraiment participer, fermez les yeux dans quelques secondes. Comme ça, vous verrez plus facilement l'exercice pouvoir se produire à l'intérieur de votre tête. Vous n'êtes bien sûr pas obligé, mais c'est plus facile. Donc, on va vous passer un son. Et donc, je vais juste vous demander une consigne. C'est de laisser remonter ce que ça vous évoque et essayer de conscientiser les pensées que vous avez. D'accord? Ok,
allez,
vas-y, fermez les yeux et on lance le son.
On lance le son, donc vous ne nous entendrez plus. On est de retour.
Alors, vous avez pensé à quoi? Écrivez dans le chat rapidement. Voilà, école,
école.
École, école, la cour d'école, etc. Alors, regardez, non seulement on est à distance, en plus j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms et des noms, mais regardez, en fait, c'est fou parce que je ne vous connais pas. Pour la plupart, c'est la première fois qu'on se rencontre. Et pourtant, avec un stimuli que j'ai choisi, je sais que j'active dans votre tête une zone fonctionnelle particulière et qu'à 99%, les réponses qui vont être générées par des gens que je ne connais pas est école. Alors, c'est un exemple très simple, mais la vraie question n'est pas est-ce que j'ai raison ou pas. La vraie question, c'est donc, est-ce qu'on peut, avec des stimuli spécifiques, aller activer dans la tête des gens ce qu'on appelle des micro-pensées? Parce que là, vous mettez école et c'est le rendu final. Mais probablement que vous vous êtes vu entre 7 et 10 ans. Dans une
ma jeunesse.
Voilà, dans une cour de récréation. Probablement avec une certaine émotion de « chouette, c'est fini ». Vous avez peut-être même souri. Vous êtes peut-être même vu dans la classe ou peut-être avec un arbre. Souvent, les gens ont dans ces souvenirs-là un arbre en fait qui est dans la cour de récréation avec de l'ombre ou des choses comme ça. Et tout ça, ce sont des zones fonctionnelles dans votre cerveau différentes. On va les voir après, je vous les montrerai. Hein. Alors, on va faire un deuxième petit exercice. Maintenant, regardez ça et qu'est-ce qui arrive dans votre tête spontanément? Évidemment que ça va être 4. Mais la question que j'ai pour vous, c'est ceci. Est-ce que vous avez réussi à empêcher le 4 d'arriver? Et non. Non. Vous voyez 2 plus 2 et 4 apparaît. Donc, regardez bien, ça veut donc dire qu'on a une conscience de nous et de ce que l'on pense à un certain niveau, mais il y a toute une série de fonctions cérébrales qui fonctionnent derrière cette conscience, où on peut vraiment réfléchir et se projeter de manière complètement automatique. Ici, par exemple, le 2 plus 2, ben ça fait en fait 4 et ça arrive « au revoir Olga ». Et donc, ça fait en fait une réponse automatique. Alors, est-ce que si vous pensez qu'il n'y a que le 2 plus 2 qui active ça, c'est faux. Regardez avec la sonorité que je vous ai montrée, etc. Et dans votre travail de tous les jours, dans vos vies, vous êtes tous différents. Donc, vous avez tous des souvenirs différents, etc. Et pour revenir à la grammaire cérébrale, par contre, je ne sais pas exactement ce que vous pensez, mais quand on regarde en IRM, on est capable de savoir quel est le type de pensée que vous avez. Parce qu'on sait que les zones fonctionnelles sont activées dans certains cas. Évidemment, c'est aussi des réseaux. Hein. C'est un peu simplifié, là.
Ah, tiens, on va peut-être passer à la question suivante et ça répondra à celle de Liam. Je passe à la suivante, Marc.
Donc, à l'inverse de la sonnerie, est-ce que pour le 2 plus 2, ce n'est pas tout simplement un réflexe logique, car ça nous semble évident pour ce calcul? Ah oui, bien sûr. Mais là, en fait, ce que tu fais, là, Liam, c'est une post-rationalisation. C'est-à-dire que le 4 est arrivé. Et puis après, on réfléchit en disant « oui, mais est-ce que c'est pas comme ça ?» En attendant, le 4 est arrivé. Et c'est pas une logique, c'est un système qui apparaît immédiatement. D'ailleurs, on va le faire avec l'exercice suivant. Et mieux comprendre, voilà, 27 fois 32, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive spontanément? Non. Et là, par contre, là, je suis obligé d'utiliser des pensées, des systèmes qu'on m'a appris quand j'étais jeune. Donc 27 fois 32, donc 10 fois 32 fois 2, plus 7 fois 32, et là, 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 pour arriver en fait au résultat à la fin. Et là, on sent bien que c'est vachement moins agréable. Et là, en fait, on consomme de l'énergie. Donc, Liam, pour dire, le 2 plus 2, l'énorme avantage de notre cerveau, il ne faut pas oublier, on n'est pas né avec de l'IA, on n'est pas né pour programmer, on n'est pas né pour gérer des boîtes, on est né pour survivre. Donc, on a des heuristiques, ce sont des mécaniques qui font que par apprentissage, on apprend des modèles qui marchent plus ou moins bien et qu'on va répéter de manière automatique. Pourquoi? Parce que ça consomme 10 fois moins d'énergie que de réfléchir. Et donc, notre cerveau, on a beau essayer d'être rationnel un maximum de temps, bien sûr, on peut l'être, hein, mais on ne peut l'être que pendant un moment. Et heureusement qu'on a d'ailleurs ces cerveaux automatiques Quand, par exemple, on doit sortir d'une station de métro, moi, je vois, alors je connais un tout petit peu mieux maintenant les stations, mais quand je vois des gens qui sortent des stations de métro, ils ne regardent même pas, ils sont sur leur téléphone, ils sortent à droite, ils vont vers les escalators, ils montent et tout ça en regardant leur téléphone. Comment est-ce que leur cerveau pourrait faire tout ça s'ils devaient tout penser? Ce serait impossible. Et donc, c'est ce monde-là. Il faut savoir aujourd'hui que quand vous dialoguez avec quelqu'un pendant une heure, vous avez à peu près, allez, on va dire 300 pensées ou shifts de pensées différents pendant une heure, c'est ce qui a été mesuré. Eh bien, il n'y a que 10% des informations qui vont être verbalisées. On va revenir tout de suite. Mais donc, si on revient aux exercices que vous venez de vivre, ce qu'il y a d'important, ce que je voulais surtout essayer de vous faire passer aujourd'hui, c'est que vous avez pensé ça silencieusement dans votre tête. Et pourtant, vous avez eu ces pensées. Alors, moi, la question que j'ai pour vous, c'est donc quand un client appelle et qu'il est au téléphone et qu'il vous répond, dites-vous que ce qu'il est occupé à vous répondre, ce n'est que 10% de ce qu'il pense. Alors, si je n'ai pas la connaissance de savoir comment aller chercher une projection, comment aller chercher une réassurance, les verrous dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, en fait, je risque d'avoir des gens qui vont me dire oui, oui et penser non, non derrière. On en a plein comme ça, des vendeurs qui nous disent « mais enfin, j'avais tout fait, la personne m'avait dit oui et tout, et puis en fait, la commande ne passe pas. » Et donc ici, ce qu'on va avoir comme micro-pensée, par exemple, dans le cas de l'école, c'est « ah, je me revois là-bas, je reconnais la situation, chouette, c'est fini. » Avec le 2 plus 2, tiens, bah oui, c'est 4, c'est évident, pas besoin d'y penser. 27 fois 32, ça va être « ah, tiens, c'est plus compliqué. » 10 fois 32, etc. Et tout ce que je vous dis là, c'est passé silencieusement. Il n'y a pas une seule fois où vous êtes dit pendant l'exercice, tiens, je vais parler tout haut. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, la majorité de ce qu'un être humain verbalise n'est qu'une toute petite partie de ce qu'il pense. Et c'est pour ça que, par exemple, le langage corporel, le langage non-verbal, etc. sont tellement importants. Et donc, le truc ici aussi, c'est que je voulais vous montrer qu'il y a moyen de générer des micro-pensées identiques chez une majorité de gens. À partir du moment où je sais comment la personne va penser. Et pour ça, en fait, il y a des techniques qui s'appellent le profilage comportemental, on va en reparler. Mais donc, c'est des techniques qui permettent de mieux comprendre, en fait, ce que quelqu'un pense. Par exemple, dans le monde des assurances, la majorité des gens se disent toujours, oui, ils sont là pour prendre de l'argent, mais quand il s'agit de payer, il n'y a plus personne. Et vous allez vous dire mentalement, dans votre tête, bah oui, oui, c'est vrai. Donc, et pourtant, de nouveau, c'est une micro-pensée qui a été activée et qui est automatique. Donc, et tout ce savoir que les gens ont dans votre domaine, il faut le connaître. Parce qu'une fois qu'on a ça et la grammaire, on est vraiment capable d'aller beaucoup plus loin en termes de service. Et quand je vous parlais de performance, c'est comme ça qu'on a obtenu x4 ou plus 30% de vente. Donc, les décisions des clients, elles sont donc basées à 90% sur des informations qu'ils ne vont pas vous révéler. Mais c'est ça qui est intéressant. Regardez, souvent, en fait, quand on demande à des vendeurs de vendre, on leur donne un script. Et on leur dit, voilà, il faut que tu te dises ça. Et puis, commence par une phase de découverte, ils appellent ça. Donc, il faut poser des questions au client. Et le client va vous répondre, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que ce n'est pas plus malin, puisque là, on n'a que 10%, quand on attend la réponse verbale du client, on n'a que 10% de ce qu'il pense. Eh bien, il y a des cas, je vous montrerai tout à l'heure, c'est une des techniques qu'on a utilisées, qu'on a demandé aux vendeurs d'utiliser, c'est de ne poser aucune question. Il ne faut pas poser de questions dans un cas particulier que je vous expliquais tout à l'heure. Pas poser de questions, il faut affirmer. Parce que je sais que si j'affirme quelque chose, comme je viens de le faire avec le 2 plus 2 ou autre, je n'ai pas besoin d'entendre votre réponse verbale. Si dans votre tête, ça active un « ben oui, moi aussi », eh bien, c'est bon, je n'ai pas besoin d'aller plus loin parce que la vente, elle se passe dans la tête du client, pas dans votre tête à vous ni dans votre dialogue. Donc ici, on va prendre l'exemple. Donc, on va prendre un projet digital et le projet commercial. Donc, ce qu'on voit habituellement dans n'importe quoi, quand il y a un problème dans une entreprise, soit digitale ou commerciale, eh bien, on commence par faire des recherches, pas toujours, parce qu'on n'a pas toujours le temps, mais quand on fait des recherches, on va souvent axer sur les mêmes trucs, demander aux clients leurs besoins, demander leurs attentes, leur demander quelles sont les fonctionnalités utiles qu'ils voudraient, quelle est l'expérience idéale qu'ils voudraient avoir, etc. On fait des personas, etc. Puis, on fait la conception, ça peut être des formulaires, un argumentaire, une FAQ ou quoi, je parle en digital là, Et puis, derrière, on croise les doigts pour les comportements et on se dit, j'espère que ça va marcher. Parfois, on fait des tests utilisateurs aussi pour essayer sur un corpus petit, au moins d'avoir déjà un feedback. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de travailler autrement que comme ça? Parce que, in fine, c'est ce qu'on a vu depuis le début, le comportement, c'est ça qui fait le succès de votre truc. Si vous vendez quelque chose, on ne doit pas avoir un croiser les doigts au bout. Ça devrait être le central, le comportement. On devrait se dire, comment je fais pour arriver à avoir un comportement qui fait que à 80%, pas à 100%, ça n'existe pas ça, mais à 80%, les gens commandent. Et pas, je vais essayer et puis je vais voir, ah ben non, ça ne marche pas. Et ça, le problème de ça, cette méthode-là, elle a été très valable pendant très longtemps. Et je pense que le problème que les organisations ont aujourd'hui, c'est que comme ils n'ont pas la grammaire cérébrale, en fait, ils ne voient pas comment est-ce qu'ils pourraient adresser le troisième volet. Mais le troisième volet, c'est le plus important. Donc, je vais vous montrer un exemple avec le digital ici. Donc, prenons un des modèles comportementaux qu'on utilise. Donc, je vais rapidement vous expliquer. Vous voyez des petits ronds avec des icônes dedans. Ce sont ce qu'on appelle des variables comportementales. Donc, par rapport à ces 180 fonctions cérébrales dont je vous parlais, il y a moyen de les matérialiser, moi, ce que j'appelle sous forme de variables. Par exemple, la motivation. Enfin, il y a plusieurs zones fonctionnelles pour la motivation, mais la peur, par exemple, la peur profonde, c'est l'insula qui va générer ça. Donc, on sait qu'aujourd'hui, la motivation, la peur, une motivation intrinsèque ou extrinsèque, ce n'est pas la même chose. Une intrinsèque, ça vient de moi, une extrinsèque, ça vient de l'extérieur. On a, vous voyez en bas, les habitudes. C'est aussi un truc qu'on peut observer. Donc, les connaissances théoriques. Quelles sont les connaissances théoriques que les gens ont et quelles sont les compétences? Donc, si on reprend juste ces variables-là sur un plan d'épargne retraite. Donc, un plan d'épargne retraite, c'est quelque chose dont les gens ne pensent pas très souvent. Et en tout cas, ce n'est pas une motivation hyper élevée. Et comme ils ne le font pas souvent, c'est un comportement qui est irrégulier ou même, occasionnel. Eh bien, en fait, ils n'ont pas de point de repère. Donc, si je leur commence à leur parler avec des mots qu'ils n'ont pas dans leur connaissance théorique, avec des compétences qu'ils n'ont pas et des habitudes qu'ils n'ont pas, ben, ça ne marchera pas. Donc ici, typiquement, les aptitudes, donc si on regroupe habitudes, les connaissances et les compétences en aptitudes, et on se rend compte qu'un client qui vient pour faire une simulation d'un plan d'épargne retraite de manière occasionnelle, eh bien, ça va être en termes d'aptitude, c'est difficile pour lui. Et en termes de motivation, il n'est pas dans la situation directement. Donc, il va avoir des micro-pensées qui sont « j'y connais pas grand-chose, je sais que j'aurai une retraite ridicule, ouh là là, j'ai pas l'habitude, les questions sont compliquées, j'ai peur de faire une erreur, je regarderai ça plus tard ». En gros, on retrouve les 5 verrous, voilà. Et en fait, vous voyez bien ce que ça amène, c'est « oui, non, bon, je regarderai ça un peu plus tard ». Voilà. Donc, ensuite, vous avez la matrice donc avec les 9 cases et évidemment, pour chacune de ces cases, on a une description comportementale de ça. Donc, on sait que quelqu'un qui a une motivation moyenne avec une aptitude difficile, la première chose qu'il va falloir faire, c'est comprendre dans le cerveau de la majorité des gens ce que ça veut dire un plan d'épargne retraite. Comment, si je reviens tout à l'heure sur la question de comment est-ce que je peux projeter quelqu'un dans 20 ans, ce n'est pas possible. Le cerveau ne sait pas se projeter à des distances comme celle-là. Donc, par exemple, une technique qu'on a utilisée, c'est de se dire, OK, donc aujourd'hui, vous avez votre prêt immobilier, vous avez vos loisirs, vous partez en vacances, vous avez vos enfants, etc. Imaginez que demain, vous continuez à vivre comme ça, mais avec 30 ou 40% d'un seul coup en moins. Comment est-ce que vous vivriez ça? Et là, c'est complètement différent parce que même vous, avec les questions que je suis occupé à poser là, vous pouvez vous dire, mais effectivement, comment est-ce que je pourrais faire demain avec moins 30% de revenus, mais je ne pourrais pas y arriver. Et là, vous voyez qu'à la place de dire, dans 20 ans, ce sera bien que vous ayez, ou dans 30 ans, ce sera bien que vous ayez un plan d'épargne retraite, là, on va vous le dire. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, les retraites vont être basses, que c'est une incertitude. Donc, tout ce que je vous donne là comme information, ce sont des choses qu'on peut donc documenter de manière à s'assurer qu'au moment où on construise le parcours, tous ces trucs-là, on les lève. Donc, les 5 verrous, il faut que ce soit pertinent pour la personne. Comment on y arrive? Il faut qu'on induise de la confiance. Il n'y a pas une personne devant soi. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Avec quels arguments on va le donner? Donc, la projection, là, on vient d'en parler. Le risque, en disant, mais c'est que, comment est-ce que je fais bien de prendre ça maintenant? Est-ce que c'est pas mieux de prendre un livret A et de mettre de côté? Et puis la simplicité, comment est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux le commander facilement, etc. Tout ça, ce sont des informations qu'on va réunir. Et là, vous voyez la méthode que nous, on utilise. C'est-à-dire qu'à la place de mettre le comportement à la fin, on met le comportement en centrale. On commence par ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder le comportement actuel que les gens ont. C'est-à-dire ce qui est commun en termes de psychologie, ce qui est commun à 70% des clients ou conseillers ou autres. Et donc, l'idée ici, c'est je vais documenter, comme je viens de vous le dire avant, on sait que à 84%, les Français, quand on dit les assurances, ils se disent ça. Donc, ils sont toujours là pour prendre l'argent, mais quand il s'agit de payer, c'est plus compliqué. On sait que quand ils n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir, parce que c'est très compliqué. On sait que tout le monde pense que, enfin, la grosse majorité des gens pensent qu'ils ne sont pas certains d'avoir une retraite, etc. Et donc, une fois qu'on a ça, on va designer le comportement attendu. C'est-à-dire, on va le transformer en micro-pensée. L'idée, ce n'est pas de construire directement le parcours. On va traduire en micro-pensée ce qu'on veut que la personne se dise. Ça peut être, par exemple, si tu passes sur le slide d'après, Fred, ça va être « Ah oui, c'est vrai, si demain je perds 30% de mon salaire, comment je vais faire ? Je ne sais pas comment je ferai. J'ai jamais vraiment anticipé ça. Ça me concerne plus que je le pensais. Ah oui, je vois très, très bien la situation. Non, je n'ai pas envie de ne plus partir en vacances. Ou de ne plus savoir rien faire, ou de devoir travailler en complément parce que je n'aurais pas assez. Mais finalement, c'est quand même plus simple que ce que j'imaginais. J'ai quand même compris ce que c'était. OK, je vois ce que je dois faire pour la suite, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'on va arriver à décrire le parcours sous forme de micro-pensée et seulement après, on fait le parcours. Et c'est ça, en fait, qui donne qu'on a des conversions x4. Ce n'est pas le PER qui a changé. Hein. Le PER, lui, il n'a pas changé. C'est toujours avec les problèmes juridiques, etc., qui sont importants, le devoir de conseil, etc. C'est l'ordre et la nature des micro-pensées qu'on a travaillé. Et une fois que les micro-pensées sont générées, trouver l'objet qui permet de générer la micro-pensée est beaucoup plus simple, en fait. Alors là, je vois ici, Emmanuel, alors, c'est très intéressant parce que je vois passer plein de choses sur les personas, l'empathy map, l'experience map, etc. Et oui, bien sûr que tous ces outils sont importants et peuvent aider. La seule chose que je peux vous dire, Elodie, Emmanuel, si vous mettez dedans du comportemental avec une compréhension réelle de comment fonctionne le cerveau, savoir quelles variables il faut aller chercher, vous allez voir que l'empathy map qui peut être... En règle générale, c'est une feuille A4 avec on met un smiley à différentes étapes. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'est-ce que la personne doit penser pour que j'arrive à ça. Et là, en fait, c'est complètement différent comme approche parce que l'empathy map, l'experience map ou même les personas, ça reste dans la méthode classique, c'est-à-dire recherche. Donc, et là-dedans, je mets puis la conception et puis le comportement, mais on croise les doigts. Même avec une empathy map, une experience map, je ne suis pas certain que ça va se générer derrière. Par contre, si je mets en hypothèse des éléments comportementaux, j'ai beaucoup plus de chances d'arriver à quelque chose. Et donc, si on prend maintenant un autre exemple avec la vente, donc là, en fait, ce sont donc des conseillers bancaires qui doivent vendre une cinquantaine de produits par an. Donc, ça passe depuis le crédit immobilier, l'assurance, auto, enfin, tout ce qui est IARD, etc. Et ils ont aussi tout ce qui est produits d'assurance vie, etc. Et les assurances de prévoyance. Les assurances de prévoyance, pour vous expliquer, c'est vous mettez de l'argent sur un produit. Donc, ce n'est pas un compte épargne, hein, parce que si vous arrive rien, vous ne touchez rien. Mais le jour où il arrive quelque chose, eh bien, votre famille, en fait, va toucher immédiatement un gros pactole de manière à pouvoir continuer à vivre décemment. Donc, ici, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on s'est rendu compte que donc, les conseillers n'en vendaient presque pas et qu'à contrario, on en avait, qui n'était pas beaucoup dans le groupe, mais qui les vendaient très, très bien. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que les conseillers avaient une aptitude difficile à en parler et la motivation était très faible pour en parler. Et par contre, les techniques classiques qu'on leur disait, mais c'est faites du rebond. Donc, quand vous arrivez au bout d'un rendez-vous pour une assurance vie, faites un rebond et demandez-lui de... Tout ça, c'est bien joli, hein, théoriquement. Mais le problème, c'est que dans les faits, au niveau comportement, ça ne se passe pas. Donc, on dit, soit le type est complètement idiot et malgré les formations que je lui ai données, c'est de la mauvaise volonté, il ne veut pas appliquer, soit il y a autre chose. Et moi, je suis plutôt partisan de autre chose, simplement parce que je l'ai déjà vu tellement de fois. Mais donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a un produit qui ne se vend pas bien, c'est souvent parce que, en fait, on n'a pas les informations nécessaires pour pouvoir le vendre correctement. Et donc, comment est-ce que je fais pour passer à un conseiller qui va se dire, mais en fait, c'est facile de vendre ce truc-là. Et en fait, à la fin, à la limite, je ne dois même pas le vendre. J'en parle pendant 30 secondes et c'est le client qui, par lui-même, va se poser la question de savoir s'il n'en a pas besoin. Donc, un des exemples qu'on a travaillé avec eux, parce que ça aussi, c'est une particularité. Alors, excuse-moi pour le prénom. Je crois que c'est Christophe, je pense, qui fait des formations. Donc, souvent dans les formations, il y a un modèle descendant. C'est-à-dire qu'on enseigne à un groupe qu'on pense homogène les mêmes éléments pendant la journée de formation. En comportemental, on fonctionne dans l'autre sens. On va lui dire comment est-ce que tu génères dans la tête du client un... Mais en fait, tout à l'heure, vous m'avez parlé là, d'un truc qui me semblait vraiment important. Est-ce que vous pourriez juste me le dire, quoi? Donc, à la fin du rendez-vous, comment est-ce que je fais pour que le client se dise ça dans sa tête? Et donc, je vais pas donner au conseiller des techniques. On va travailler ensemble pour que chacun trouve sa technique. Et on est arrivé au bout avec ce que vous voyez là, c'est-à-dire avec une amorce. Alors après, ça s'appelle un effet d'amorce, mais je ne leur ai pas expliqué tous ces éléments-là. L'idée, c'est la personne arrive pour faire un crédit immobilier. Donc, le conseiller va simplement lui dire, écoutez, vous êtes venu pour faire un crédit immobilier, faites-moi penser à la fin, j'ai un truc, je vais vous dire, ça prendra que 30 secondes, mais c'est vraiment important parce que dans votre situation, on a déjà vu beaucoup de familles qui se sont retrouvées dans des ennuis. Et donc, je voulais juste vous donner l'information à la fin. Mais on va d'abord parler de votre crédit immobilier. Qu'est-ce qui va vous titiller là? Vous allez dire, mais de quoi il veut me parler? Et l'énorme avantage, c'est que du coup, le conseiller qui lui a du mal à en parler, au bout d'une heure de discussion du crédit immobilier, quand lui est crevé et que le client est crevé, aujourd'hui, dans 80% des cas, c'est le client qui revient vers lui en disant, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait un truc qui était important, qu'il fallait que je vous rappelle, c'est quoi? Et là, la consigne qu'on a donnée, c'est surtout de ne rien vendre du tout. Il faut que la personne se rende compte par elle-même qu'en fait, il y a un problème et que si elle ne le résout pas, eh bien, elle risque de se retrouver dans les ennuis. Et on ne va pas essayer de le vendre dans le temps 1. On va simplement lui donner pendant 30 secondes des informations. Alors, je ne peux pas vous donner ça ici parce qu'en plus, c'est confidentiel, mais pendant 30 secondes, les informations vont être données. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'un rendez-vous sur deux est reporté à une autre fois pour discuter de ce problème-là. Et du coup, les ventes ont augmenté en global de 30%. Donc, vous voyez, en fait, les éléments de langage sont importants, mais en pensant à ce que l'autre a. Alors, je vois Christophe, non, c'est pas Christophe, j'ai vu un qui disait, Jérôme qui disait, on active une crainte chez le client. Alors non, ça, c'est aussi très important. Il y a un mythe autour des neurosciences qui fait qu'on se dit, non, mais on peut manipuler les gens. Je peux vous dire un truc, hein, c'est que si on essaye d'activer une peur ou une crainte dans le cerveau de quelqu'un de manière non bienveillante, la personne va le sentir immédiatement. Et d'ailleurs, c'est un des principes de base dans les formations de vente comportementale, c'est surtout d'être vraiment authentique. Donc, si vous savez qu'à 70%, il y a une peur qui est activée chez des gens, par exemple, la peur de ne pas avoir la retraite, je ne vais pas manipuler quelqu'un, c'est une réalité. Donc, par contre, la manière dont je vais l'utiliser est importante. Et donc, c'est évidemment, l'éthique est importante, mais je peux vous dire que sans éthique, en règle générale, ça ne marche pas bien du tout. Hein. Donc, d'ailleurs, une partie des formations de vente sont justement sur le fait de laisser à la personne la possibilité d'être vraiment authentique et de ne pas suivre un script. Et c'est pour ça, en fait, que moi, je suis anti-script, mais complet. Alors, pas scripter ce que la personne doit dire. Par contre, je suis pour les scripts de ce que s'il doit se passer dans la tête du client. Ça, oui. Et puis après, c'est au conseiller, en fait, à trouver ses techniques pour y arriver.
Alors, mon cher Marc, on a un petit peu dépassé le timing. Donc, si les personnes veulent en savoir plus, tu as ton livre. qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, donc 300 000 ans d'expérience client. Et bien sûr, là, ici, il y a tes coordonnées, ton site internet, et ben, les personnes pourront en savoir un petit peu plus. Bien sûr, on passera aux sessions de questions-réponses à la fin. Mais donc, Marc a écrit ce livre-là qui est vraiment passionnant, où il raconte justement pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure des neurosciences. On pourrait le voir dans les premières pages. Et là, je crois que tu vas écrire un prochain livre aussi, Marc, dans pas longtemps. C'est ça.
Oui, sur la vente comportementale. Et l'idée, c'est de... Je pense que ça va être un petit peu choquant pour pas mal de gens, mais l'idée, c'est vraiment de dire que vendre, ça n'existe pas. C'est un de ces mythes que l'on croit. On ne vend rien à personne. Hein. Y a rien du tout. Il y a quelqu'un qui achète, ça oui. Mais vendre, un vendeur ne vend rien. C'est simplement une personne qui achète. Et donc, une fois qu'on a compris ce mécanisme-là, à ce moment-là, tout devient différent parce que mon but est de m'arranger pour que la personne, de manière progressive, rentre dans un parcours dans lequel elle va arriver à un oui naturel et pas un oui forcé ou avec des techniques de closing ou des trucs violents qui ne marchent de moins en moins d'ailleurs hein, parce que c'est de moins en moins efficace.
Ouais. Alors justement, on va passer maintenant à l'application des neurosciences dans la relation client. Et là, en fait, bon, on arrive plus dans notre métier, nous, d'éditeur de logiciels, puisque toi, tu fais vraiment du sur-mesure et tu vas montrer des applications pratiques dans différents secteurs d'activité. On en parlera dans les questions-réponses. Nous aussi, on a essayé de faire cette première étape-là avec l'analyse des interactions téléphoniques avec le prisme des neurosciences. Le but, en fait, c'est donner un premier niveau d'analyse aux superviseurs et aux agents. Ça fonctionne d'une manière assez simple. Et là, en fait, je vais vous faire écouter une petite conversation téléphonique donc, de Chantal et de moi-même. Vous allez voir, ça va être en mode acteur studio. Donc, je vous laisse écouter le début de la conversation. Donc, c'est une conversation téléphonique et on va voir après l'analyse avec les neurosciences. Bonjour, Éloquent Croisière, je vous écoute.
Oui, bonjour, je vous appelle parce qu'il y a une facture qui arrive à mon nom, une facture de 12 300 euros pour une croisière Latino Samba au Brésil. Moi, monsieur, j'avais commandé 2 billets pour le bateau mouche à Paris pour 45 euros.
Ok, est-ce que vous pouvez me donner votre numéro client, s'il vous plaît?
C'est ce qu'il y a en haut, c'est le 3 4 8 17 2X.
Ah, attendez, je ne vous retrouve pas dans mon système. Attendez, c'est un petit peu lent. Voilà, donc je ne vous ai pas mis l'intégralité de la conversation téléphonique, mais vous voyez un petit peu l'enjeu. Le but, en fait, là, c'est de montrer qu'avec une conversation téléphonique, on va pouvoir faire une première analyse en utilisant les principes des neurosciences que l'a présenté un petit peu Marc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Voilà, vous allez voir mon écran tout de suite. Et ici, vous allez voir en fait ce qu'on a dans notre logiciel. Donc ici, d'un côté, vous avez la transcription. Hein, vous voyez ici, bonjour Chantal, c'est parce qu'il y a une facture qui est arrivée à mon nom, 12 300 euros, ta, 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 ta. Et ici, sur la droite, vous avez une première analyse qui a été faite par l'intelligence artificielle. Alors bien entendu, à chaque fois, nous, on va dire que c'est bien sûr qu'une première analyse, que c'est pas fait par une personne, ce sont des suggestions. Le but, c'est vraiment de pas remplacer le travail des équipes. Néanmoins, ça permet en fait de faire différentes analyses à différents niveaux. Le premier, on va vérifier ce fameux état émotionnel. Au départ, OK, quelle est la situation du client? Est-ce qu'il est frustré et donc qu'est-ce qui se passe à la fin? Elle est exaspérée, moqueuse. Donc on voit bien que le niveau en fait émotionnel, bah il s'est pas arrangé. Alors que normalement le travail du conseiller, ça va être au départ d'avoir un client qui est peut-être énervé, qui a peut-être là incrédule et puis essayer de remonter en fait la situation et faire en sorte que ça aille mieux. Là ici, on voit bien que ça a pas marché, au contraire, il y a aucune désescalade et la tension a même empiré. On va faire après une petite analyse en disant voilà qu'est-ce que le conseiller a réussi et qu'est-ce qu'il a réussi et qu'est-ce qu'il n'a pas réussi à faire. Là, on voit ici qu'il y a une tentative pour rassurer sur le coût de l'appel, 15 centimes la minute, ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire ça rapidement. Il y a eu un essai de désamorcer, malheureusement, la phrase est trop légère pour contrer l'énervement principal de la cliente. Et après, on va aller dans le détail. On voit ici que, par exemple, le conseiller, il n'a pas utilisé une structure pour en fait structurer sa conversation. Il peut utiliser la méthode boussole d'appel où il énonce clairement les étapes l'ouverture pour donner à Chantal un sentiment de contrôle. Madame Bignol, voilà ce qu'on va faire ensemble. Je vérifie votre dossier, on va comprendre cette erreur, on regarde comment annuler cette facture et je vous explique comment éviter que ça se reproduise. Voilà. Donc ça, c'est, on lui dit déjà, il manque un petit peu de structure. Ensuite, il y a différentes étapes, des moments clés dans la conversation. Comme tu disais, Marc, à des moments, si tu utilises un mot ou un autre, si tu n'utilises pas les bonnes choses, ça ne va pas activer les mêmes zones dans le cerveau. Par exemple, à un moment donné, il va dire, je ne sais pas, c'est 15 centimes la minute, mais ne vous inquiétez pas. Là, ici, Chantal fait d'ironie, il dit, mais vous inquiétez pas, c'est une phrase creuse, ça fait une micro-tension, le client contre-attaque, il aurait fallu plutôt dire, bah, je comprends que ça s'ajoute à votre stress, je fais au plus vite, ou attendez, quand il lui demandait son prénom, attendez, pas trop rapidement, redites-moi votre prénom, dites-moi. Là, en fait, on voit de l'agacement qui est arrivé chez le client, parce qu'on lui a dit, pas trop rapidement, c'est un petit peu un reproche de sa part, c'est une bascule négative, le client se branque, il faut dire plutôt, en mode mirroring, Bignol, B-I-G-N-O-L, c'est bien ça, hein, je le note, sans commentaire sur le rythme, comme ça, on va pas vexer la cliente. Bon, c'est quelques infos là-dessus. À chaque fois, il y a une note en fait sur 10. Hein. On voit s'il réussit, il réussit pas. On voit des suggestions qu'ils ont faites. On voit également la partie pression informationnelle. Hein. Ici, on a des noms de croisière. Faudrait que je vois que si le bateau s'appelle Caravan de Samba, etc., etc. Là, ici, il y a trop d'hypothèses sur une phrase. Nom de croisière, nom de bateau, etc. Ça peut arriver. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et en fait, forcément, Chantal, ça l'énerve. Il aurait fallu faire plutôt quelque chose qui était. Je vois que c'est une erreur liée au libellé, qui a pu se glisser dans votre commande. 2 secondes, je regarde ça. On voit après le ton émotionnel. Ici, ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire ça assez rapidement. C'est un peu trop léger. Ça minimise la situation. Et là, on aurait pu dire, par exemple, je reprends ça très au sérieux, madame. Je vous tiens au courant en direct, je regarde. Voilà, il y a des effets de langage ici, un sentiment de loterie, l'accusation implicite, ah, ok, etc., etc. Et après, il y a différents moments. Est-ce qu'il y a des moments de connexion ou des moments de défiance. Le lien a été fragilisé avec attendez, sans explication, aucun usage du prénom, Madame Bignol, ou des choses comme ça, le mirroring, comme tout à l'heure, et puis après, il y a règle d'or. Ici, par exemple, un client en colère a besoin d'une phrase, pas d'un miroir. Donc Fred a surenchéri sur l'agacement, pas trop rapidement, au lieu de guider, ne jamais reprocher le ton, nommer l'émotion, je vois que cette situation vous énerve à juste titre, voilà comment on la règle. 1, on va faire ci, 2, on va faire ça. Les mots flous sont des cailloux dans la chaussure client. Ça peut arriver, Chantal entend « on ne maîtrise rien », donc il faut donner des exactitudes. C'est une facture aberrante, c'est un feu rouge, tout on freine tout de suite. Fred a enchaîné les vérifications sans connaître l'urgence perçue, en disant « voilà, plutôt madame, c'est anormal, je bloque cette facture, le temps de vérifier, etc. etc. » Puis, il y a le cadre ici, est-ce qu'on a fait donc cette fameuse boussole dont on a parlé tout à l'heure ? Est-ce qu'il y a une clôture, confirmation écrite à la fin, le 3C, hein, je fais ci, je fais ça, et voilà les prochaines étapes. Après, il y a peut-être des micro-tensions ici, vous êtes un touriste, il y a une perte de crédibilité, il aurait fallu dire plutôt, votre frustration est légitime, voici ce que je vais faire pour vous, etc. Est-ce qu'il y a de la synchronisation? Mais là, on voit en fait qu'on est désaligné, le client s'est impatienté, il aurait fallu adapter son débit avec une phrase courte et dynamique. Le vocabulaire, nom de produit, etc. Faut le mettre en termes concrets. Je vérifie si votre commande a été mal enregistrée. Au final, on a un petit score à la fin en disant, bah voilà, la conversation a empiré, 3 sur 10, l'état émotionnel de Chantal est vraiment négatif et ça n'a pas fonctionné. Par contre, on essaie toujours d'être positif là-dessus. On va dire, voilà, les 3 forces de Fred, ben, c'est la réactivité initiale, l'essai pour assurer la persévérance, mais en fait, bah voilà, il aurait fallu faire des choses et quelques petites suggestions. Dès l'ouverture, bonjour madame, je vois votre problème, résumez l'erreur, voici qu'on va le régler ensemble, 1, 2, 3. Si le client monte en tension, il faut le faire name it and tame it, donc votre colère est normale, on va faire ça de telle action, la clôture, solution, etc., etc. Et bien sûr, le petit mot d'encouragement, Fred, tu as le réflexe d'aider, c'est essentiel, maintenant structure tes réponses comme un GPS, on va ici, voici, c'est sur le chemin. Chantal avait besoin de certitude, pas de doute. Toi, la prochaine fois, prends les devants, la boussole est claire et tu verras, tes clients plus remuants te s'ouvriront. Un client énervé, c'est un client qui n'a peur de ne pas être entendu. Toi, tu peux être son port d'attache. Voilà, donc il y a des petites allégories comme ça qui permettent de montrer en fait ce que l'on peut faire. Alors, je vais repartir sur ma présentation. Hop, tout de suite. Hop, voilà. Donc, bien sûr, vous pourrez regarder ça tranquillement à tête reposée. Le but de tous ces outils-là, c'est d'aller chercher, moi, ce que j'appelle l'excellence relationnelle. C'est-à-dire qu'il y a certains mots qui vont rassurer plus que d'autres et qui vont permettre d'avoir des clients qui sont plus enchantés. Par exemple, tu as parlé tout à l'heure d'assurance, mais c'est vrai que moi, j'ai déjà eu ça, le cas avec une écoute que j'avais faite, où la personne avait dit « Bon, oui, bonjour, madame. Ah, oui, vous avez écrasé votre robot pelouse. Ah, bon, alors, c'est pas dans votre contrat. » Mais bon, allez, je vais vous le faire tout de suite, ça va être fait. Donc là, la cliente avait dit, ouais, super, c'est très gentil. Sauf qu'en fait, on n'avait pas pris la valeur que ça avait. Il aurait fallu plutôt dire, bah voilà, madame, normalement, ce contrat-là, il n'est pas compris. C'est une option supplémentaire pour la protection du robot Toulouse quand on a une assurance habitation. C'est 15 euros par mois. Là, vous ne l'avez pas souscrit. Cependant, hein, comme vous êtes cliente depuis plus de 10 ans de chez nous, que vous avez l'assurance auto, que vous avez l'assurance voiture, et bon voilà, vous n'avez pas été sioniste depuis un moment, bah, je prends sur moi le fait de vous offrir gracieusement le forfait de cette tondeuse et vous serez remboursé. Là, tout de suite, la cliente se rend compte qu'on fait quelque chose de pour elle, on l'a nommé, personnalisé, c'est quelque chose qu'on ne fait pas pour les autres, et là, on arrivera plutôt à avoir du 5 étoiles plutôt qu'un 4 ou un 4,5. Voilà. C'est cette recherche d'excellence opérationnelle qu'on va mettre en place avec l'analyse IA. Et nous, de notre côté, on a aussi un doctorant qui travaille avec nous sur l'analyse en fait des émotions. Et là, en fait, il est en train de travailler sur les analyses de la voix, la prosodie, c'est-à-dire le rythme, l'intonation, la variation, etc., etc., pour pouvoir en fait estimer, grâce à ces éléments-là, l'émotion du client, sans lui demander en fait son niveau de satisfaction. Là, en fait, ça sera en automatique, ça sera complémentaire à la mesure de la satisfaction pour savoir en fait vraiment qu'est-ce que pense le client. Comme tu l'as dit Marc, il y a des choses qui se passent dans la tête et qui ne sont pas forcément les mêmes que ce que le client déclare. Il peut très bien avoir eu beaucoup d'énervement au départ, à la fin ça se passe bien et finalement il va mettre une note de 4 ou 4,5 alors qu'il y a eu des moments dans la conversation où ça s'est pas du tout bien passé. Donc ça sera disponible dans nos produits prochainement, on est en train de travailler là-dessus. Alors, ce qu'il fallait retenir avant qu'on passe à la session de questions-réponses, hein, c'est ce qu'on disait très justement au départ, plus il y aura d'intelligence artificielle dans les produits, plus il y aura de self-care, plus il y aura d'automatisation, qui est comme la tendance actuelle. Nous, nos clients demandent beaucoup de mettre en place du callbot, du chatbot, du self-care. Et ben en fait, plus l'humain et l'interaction humaine fera la différence pour justement gérer ces cas particuliers ou juste faire le pas de côté qui est nécessaire. Donc, bien sûr, via les équipes éloquentes pour suivre les neurosciences ou avec Marc, qui peut gérer dans votre entreprise tout ce qui appelle une situation partie commerciale, partie service client, etc. Et l'IA va vous permettre aussi d'avoir un premier niveau très basique, mais qui permet au moins d'aller analyser ces informations-là. Alors, on va faire plusieurs conférences à venir si vous voulez en savoir plus. Après, je passe à la session questions-réponses. Hein. On se reverra le 30 juin pour un webinaire qui va être vraiment très sympa. Ça va être un webinaire qui va être sur les émotions, le parcours client. Et on aura la chance d'avoir deux invités qui sont vraiment très, très intéressants. Estelle Perry, qui est responsable VP opération chez Mobilize, une filiale du groupe Renault, et qui est d'ailleurs, qui a eu un diplôme en neurosciences. Elle a passé un diplôme en neurosciences. Elle m'avait dit ça. Elle dit, ouais, les neurosciences avec Marc, ça me parle. Donc, elle nous donnera un petit peu son avis et ce qu'elle a mis en place dans le service client de chez Mobilize et à la fois sur les parcours clients. Et on aura également Enguerrand Léger qui est auteur du livre Customer Happiness Manager et qui est intéressant parce que c'est l'émotion au cœur de la relation client. Et ça sera donc le 30 juin et vous pouvez vous inscrire sur eloquent.com/événement. Et bien sûr, on se reverra en septembre un petit peu sur la notion d'attachement. On verra aussi que l'attachement client, c'est différent de la satisfaction. Ça sera le 24 septembre à 9h30. On mettra le webinaire en ligne pas plus tard que cet après-midi ou demain. Et on se retrouvera le 26 novembre pour le CX Summit, qui est une journée de conférence. Alors, je crois qu'on va pouvoir passer à la session de questions-réponses. On a débordé d'un bon quart d'heure. Alors, il y a quelques questions peut-être qui vous turlupinent. Donc, à ce moment-là, on peut prendre encore une dizaine de minutes maximum pour cela. Merci Émilie, qui te remercie Marc. Merci Marc pour votre intervention extrêmement intéressante. Votre bouquin sera mon livre d'été, très certainement. Bon, merci Émilie, moi, ça vous aura inspiré.
Ouais, c'est gentil, Émilie, merci.
Alors, il y a Priscilla qui dit, l'analyse avec votre outil se fait-elle toujours en ces mêmes étapes et de façon aussi détaillée? Alors, oui, pour l'instant, on fournit un prompt standard qu'on a appelé le prompt entre guillemets neurosciences, qui est un prompt très détaillé justement qui permet d'aider le conseiller, voire éventuellement, enfin plutôt le superviseur éventuellement le conseiller, pour un premier niveau d'analyse, puisqu'en fait c'est vrai que cet aspect psychologie, bah, il n'est pas à la portée de tout le monde. Tu vois, Marc, c'est des années de travail, c'est une expérience. Et là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment un premier niveau. On n'arrivera jamais à avoir toute la qualité que toi tu pourrais faire, Marc, mais c'est vraiment une première, un premier niveau pour prendre en fait l'aspect psychologique. Voilà. Et par la suite, en fait, on va pouvoir proposer des prompts un peu plus personnalisés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sophie qui pose, est-ce que c'est en direct lors de la conversation avec le client ou post-appel? C'est post-appel, bien entendu, puisque là, on ne va pas faire de l'agent assiste, c'est-à-dire qu'on ne va pas suggérer au client, enfin, au conseiller de dire telle chose au client. Là, on est plus en fait de l'analyse a posteriori pour améliorer les comportements. Comme tu disais, Marc, on ne change pas les mentalités comme ça du jour au lendemain. C'est un travail sur la durée et il faut trouver les bonnes accroches et les bonnes méthodes. Et donc là, en fait, c'est vraiment du post-appel. Et c'est souvent via une sélection de conversations par le superviseur ou par le client. C'est-à-dire que le conseiller peut choisir dans cette conversation de flaguer ce qu'on appelle l'employee effort score, l'EES. Il peut se dire, ah, cette conversation-là, je sais pas, ça s'est mal passé, j'ai pas eu le bon mot, le client a pas compris, etc. Et à ce moment-là, en fait, le superviseur va pouvoir identifier cette conversation et lancer le prompt aux neurosciences ou des prompts un peu plus classiques. Voilà. Est-ce que ça aide aussi le conseiller à trouver les bonnes réponses? Là, il y a des suggestions. Si vous pouvez regarder, il y a ce que le conseiller a dit, le problème qu'il y avait et des suggestions. Bien entendu, ce sont que des suggestions. Comme tu disais, Marc, c'est pas un script à suivre. Il faut l'adapter à sa personnalité, à sa manière de faire. C'est pas quelque chose de rigide. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Alors, oui, Emmanuel qui parlait du Consumer Insight. Comment vous faites émerger les micro-pensées des conseillers dans l'exemple ou chez nos clients? Ça, je ne sais pas si tu as répondu à cette question-là, Marc.
Alors, en fait, le premier principe, c'est d'abord de bien les nommer, les micro-pensées. Donc, si par exemple, on se rend compte que les gens pensent que, et c'est la réalité, hein, pensent qu'avec un livret A, ils ont de l'argent de côté et que donc ça ne sert à rien, par exemple, d'aller prendre un produit de prévoyance. D'abord, c'est d'avoir le constat. Donc, il faut avoir la donnée. C'est ce qu'on appelle le profilage comportemental dans lequel on va aller chercher pour les variables, pour les zones cérébrales principales, les données qui existent. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mais parce que si on sait que 80% des gens pensent la même chose, et donc, dans un profilage, on ne prend donc que les statistiques qui disent au-delà de 60-65%, les gens pensent la même chose. La probabilité que j'ai, si je dis à quelqu'un, la majorité des gens, quand ils ont un problème de ce type-là, ils pensent qu'avec un livret A, ça suffit. Mais quelle est la micro-pensée qui va être générée dans la tête de la personne? Oui, oui, moi aussi, je pense ça. Mais pour ça, il faut qu'on ait la donnée et il faut qu'on détermine les micro-pensées qui doivent être générées. Et en fait, on a un séquençage de micro-pensées qui doivent se générer dans un certain ordre. Et après, chaque commercial trouve la manière de le faire. Je vais vous donner un exemple, un autre exemple. Donc, on travaille pour une entreprise qui fait des travaux de rénovation énergétique. Et donc, ils envoient des techniciens sur place pour évaluer si effectivement, dans la maison de la personne, une pompe à chaleur peut fonctionner et quel type de pompe à chaleur il faut mettre dans le bâtiment. Quand on a fait le profilage comportemental, on s'est rendu compte que dès que on rentre dans la maison de quelqu'un, il y a toute une série de protections qui se mettent en place de manière immédiate et non consciente de la part de la personne. Et évidemment, moi, j'ai été aussi observé sur place. Donc, quand je fais des profilages, je fais d'abord des recherches sur des centaines de données et puis après je vais voir sur le terrain pour confirmer. Et effectivement, à chaque fois qu'on y allait, le technicien disait bah, écoutez, donc merci de me recevoir, donc on va regarder pour la pompe à chaleur, et donc il avait un script, hein. donc on va passer par toutes les pièces et je vais regarder les radiateurs et mesurer le volume d'air. Et je voyais que dès que le technicien disait on va passer dans toutes les pièces, on avait perdu le client. Parce que effectivement, donc dans une maison, si je rentre dans votre entrée, c'est pas la même chose que si je rentre dans votre salon, c'est pas la même chose que si je rentre dans les couloirs qui mènent aux chambres. C'est pas la même chose si je rentre dans une salle de bain, et c'est encore pas la même chose si je rentre dans votre chambre. Et deuxième chose qu'on a vu, c'est que, et tout ça, ce sont des données hyper importantes. Tous les combien de temps les gens font le ménage chez eux? Parce que, effectivement, il peut y avoir une chaussette qui traîne, une culotte, tout, etc. Donc, pour éviter tout ça, je vous montre déjà tout ce qu'on, c'est rapide, mais tout ce qu'on peut aller chercher comme information qui permet de comprendre le comportement des gens que l'on va avoir quand on va rentrer chez eux, c'est super important. Et donc, pour revenir à la chaudière, à un moment donné, il y a des clients qui disent, mais pourquoi est-ce que vous devez passer dans toutes les pièces? Et ça, c'est à 80%. C'est la réaction aux pensées qu'il n'a pas dites, donc aux micro-pensées silencieuses, dans lesquelles il se dit, mais non, mais attends, moi, il est hors de question que ce gars rentre chez moi comme ça partout, j'ai pas fait le ménage, j'ai une réunion, parce qu'on en a eu comme ça, des réunions Teams, etc. Donc, c'est hors de question. Et la réponse verbale, c'est, mais pourquoi est-ce que vous devez faire ça? Et donc, là, en fait, la micro-pensée qui doit être générée derrière, c'est, ah, mais oui, en fait, s'il ne passe pas dans les pièces, c'est impossible de me faire une offre. Alors, pourquoi est-ce que cette micro-pensée est tellement importante? Et il ne doit pas la dire, hein, il doit la penser. Parce que tous les concurrents viennent et ne font pas ça, ils ne passent pas dans les pièces. Et sans passer dans les pièces, c'est vraiment impossible de faire un devis. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, je demande aux formateurs, aux techniciens, et je leur dis, bon, comment vous faites ça? Alors, chacun doit trouver sa manière de faire. Et je me souviens d'une interaction que j'avais avec quelqu'un qui me dit, et donc moi, je jouais le client, mais il me dit, écoutez, je dois dimensionner la pompe à chaleur. Je dis stop, hein, je fais pause, je dis, écoute, je comprends rien, tu me parles chinois, là, dimensionner la pompe à chaleur. Mais la seule chose que tu me génères comme micro-pensée, c'est de quoi il parle. De quoi il parle, c'est quoi dimensionner? Moi, j'ai pas envie qu'il rentre dans mes pièces, hein. Donc, à un moment donné, je le pousse. Et puis, il me dit, mais enfin, Marc, quand même pas compliqué, quoi. Vous chaussez du combien? Ben, je dis, du 41,5. OK, si je vous mets des pompes à 45, ça va être trop grand, vous allez flotter dedans. Et en plus, vous allez payer plus cher. Si je vous mets du 39, ben, vous n'allez pas savoir rentrer dedans. Vous allez être inconfortable, etc. Donc, il faut que je trouve la bonne pointure. Ben, avec la pompe à chaleur, c'est la même chose. Et je dis, OK, ça va, j'ai tout compris. Parce que les micro-pensées qui ont été générées chez moi, c'est, je voyais une paire de chaussures. Je voyais une paire de chaussures trop grande. Et tout à l'heure, Christophe demandait comment est-ce qu'on pousse les gens à aller dans de la projection. Ça, c'est des exemples. Mais pour aller vers les techniques, il faut, la technique n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la micro-pensée. C'est ça que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui. On vit dans un monde dans lequel on essaie de trouver des raccourcis, des techniques, des trucs et astuces. Moi, aujourd'hui, les chiffres que j'arrive à avoir en performance, c'est parce que je prends le temps. Je prends le temps d'aller regarder. Mais derrière, je peux vous dire que ça n'a rien à voir, hein, en termes de résultats. Parce qu'une fois que j'ai compris ce qui se passe dans la tête des gens, et donc, par exemple, pour revenir aux pièces, donc une fois que j'ai expliqué avec la paire de chaussures, je lui dis donc, je suis obligé pour ça, pour savoir la bonne taille de chaussures, je dois rentrer dans les pièces parce qu'une pompe à chaleur, et là, je leur demande de nouveau, mais comment est-ce que tu expliques une pompe à chaleur? Ah, ils me disent, ben, en fait, c'est de l'air froid qui rentre, de l'air chaud qui sort. J'ai aucune projection, j'ai aucune visualisation. Et donc, je le pousse. Et puis, il y en a un qui me dit, mais en hiver, quand tu es dehors, Marc, et que tu inspires de l'air, on voit rien, mais quand tu expires, il y a de la vapeur. Mais c'est de l'air froid qui rentre et c'est de l'air chaud qui sort. Ben, une pompe à chaleur, c'est comme ça. OK. Voilà. Donc, voilà une technique qu'eux ont inventée, c'est pas moi. Hein. Et l'idée, c'est que du coup, ils expliquent ça. Donc, il me faut une paire de chaussures, la bonne taille. Une pompe à chaleur, ça fonctionne, vous savez, quand vous êtes en hiver et que vous soufflez, etc. Et pour faire ça, comme c'est du volume d'air, ben, il faut que je voie les volumes. Parce que sans ça, il n'y a personne qui sait faire d'offres. Et on passe dans les pièces. Et quand on passe dans les pièces, on annonce aux gens. Donc, on dit, on va d'abord passer dans le salon, puis la cuisine, puis on va aller voir les chambres de vos enfants, puis on va rentrer dans votre chambre. Et en fait, on a une progression dans l'entrée dans l'intimité des gens, et bien sûr qu'on leur dit, écoutez, ne vous tracassez pas. Je crois que j'ai rencontré un client sur 100 dont les pièces étaient nickel. C'est normal chez moi, c'est aussi, il y a du bazar qui traîne, donc ne vous inquiétez pas, s'il y a une chaussette, c'est pas ça que je regarde. Terminé. Eh bien, l'ensemble de ça, c'est eux qui ont fait leur script. Alors, je peux pas vous donner les chiffres, mais en gros, voilà, ça a augmenté par un facteur de 2x, quoi. Donc, voilà.
Alors, il y a Virginie qui disait, est-ce que ce type d'analyse est pertinent B2B? Je pense que tu as partiellement répondu à la réponse, mais en off, on avait discuté d'un autre cas en B2B que tu utilises et c'est utilisable. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a Damien qui dit « Que conseilleriez-vous en littérature traitant de la grammaire cérébrale ?» Bah, le livre de Marc, 300 000 ans d'expérience client, vous le trouverez sur son site Sapien UX, où vous tapez sur, il est disponible sur Amazon, sur Fnac, etc.
Vous pouvez même l'avoir en PDF gratuit hein, sur, sur mon site si vous voulez. Voilà. Moi, je trouve que c'est toujours plus sympa d'avoir le bouquin, mais si jamais.
Mais c'est tout à fait vrai, puisque bah, tu vois, on avait fait une matinale dédiée à nos clients, et donc il y a une personne de la Massif qui n'avait pas eu le livre. Je lui ai dit, bah, si tu veux, je t'envoie le PDF, et elle m'a dit, non, je préférais le livre. Et elle a reçu le livre, et donc elle préfère la lecture classique. Alors, après, je crois qu'on avait répondu au premier. Je vais voir s'il y a une ou deux questions, après, on va peut-être pouvoir vous laisser. C'est vrai que le livre, c'est mieux. L'objectif est de faire penser, oui, moi aussi, je pense ça. Très vrai. Alors, chatbot IA agentique, vos solutions s'y intègrent. Alors, nous, notre solution, en fait, ça va être plutôt de se connecter à notre solution de centre de contact et de faire de l'analyse des conversations avec notre solution. On préfère quand même que ça soit de cette matière-là. En revanche, nos outils peuvent être achetés de manière unitaire, c'est-à-dire qu'on peut acheter d'un côté la solution d'enquête de satisfaction, client et collaborateur, et de l'autre côté la solution de centre de contact. Et chez nous, on peut juste, par exemple, déployer la voix, la partie téléphonique, et avoir cet outil d'analyse des conversations IA qu'on peut faire. Donc, en fait, on est tout à fait modulaire, si j'ai répondu à votre question, ma chère Emmanuelle. Je pense, Christophe, on en a déjà parlé, quels principes pour lever les verrous dont on a parlé? On a parlé des 5 verrous, là, les fameuses, la simplicité, la peur, etc., etc. Je pense que il y a quand même pas mal d'infos qui ont été données là-dessus. Je crois c'est dans le livre. Alors, je pense que ça va être dans le livre.
Non, Christophe, pas dans le premier. Le premier, c'est vraiment comprendre l'importance des neurosciences dans le monde dans lequel on vit maintenant et essayer de le simplifier au maximum pour qu'un maximum de gens puissent comprendre. Les verrous, en fait, je vais les traiter dans mon second livre. Normalement, je ne suis pas travaillé dessus depuis 2 ans, donc ça devrait arriver fin d'année. Et là, j'explique clairement non seulement comment, à quoi ressemble un verrou, comment est-ce qu'on peut le faire sauter et comment est-ce qu'on voit qu'il a sauté. Parce que ça aussi, comment est-ce qu'on voit qu'il est actif et comment est-ce qu'on voit qu'il a sauté. Et donc, et aussi avec tout le langage non verbal, etc. Quoi, voilà.
Alors, il y a Fabrice qui te pose une question. Combien coûte un profilage comportemental par marque? Donc, il suffira, je pense, de t'envoyer une demande par email. Donc, on a donné tes coordonnées tout à l'heure. Et Marc pourra bien sûr y répondre. C'est marc@sapienux.com. Donc, n'hésitez pas, Fabrice, vous pouvez envoyer un. Et il y a même le numéro de téléphone. Si c'est 352, c'est parce que Marc est d'origine luxembourgeoise. Donc, ouais. Marc n'est pas un scammer au Nigeria ou au Cameroun ou ailleurs. C'est une vraie personne, ce n'est pas un robot. Bon, et ben à ce moment-là, ben on vous remercie tous pour votre attention, pour vos questions. Il y a Jean-Philippe qui dit, je n'ai pas entendu le nom du 5e verrou.
Alors donc, 1, c'est la pertinence, 2, c'est la confiance, 3, c'est la projection, 4, c'est le risque et 5, c'est la simplicité. Donc, si on le refait vite, donc c'est pertinent pour moi, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. La confiance, c'est ok, je me sens avancé avec la personne. Et là, dans la confiance, il y a une équation, vous pouvez aussi la retrouver sur mon blog dans laquelle je l'explique. La projection, bah, c'est effectivement d'arriver à ce que la personne se voit avec l'objet. Le risque, c'est de se dire, par exemple, quand les gens travaillent avec nous, comme on a un tout petit cabinet, bah, ils prennent un risque plus important puisqu'on n'est pas McKinsey. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que donc on a limité le risque en travaillant avec plein de grosses marques qui donnent confiance à la personne. Mais vous voyez, tout ça sont des éléments. Et le 5, c'est la simplicité. C'est-à-dire, si la commande ou un acte est compliqué, même si j'ai eu les premiers verrous, je vais toujours avoir un risque que la personne ne le fasse pas.
OK. Alors, ben merci Marc pour tous ces détails. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin pour ce long webinaire. On espère que ça va vous intéresser. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez donc aller sur le site de Marc, commander le livre papier ou le livre version PDF. Vous pouvez contacter Marc au numéro de téléphone qui s'affiche là ou par email. Et si vous voulez avoir des informations sur les solutions Eloquent, centre de contact, enquête de satisfaction, chatbot, callbot, analyse des conversations IA, n'hésitez pas à nous contacter, on est à votre entière disposition. Il suffit d'aller sur le site Eloquent et on se donne rendez-vous pour les prochains webinaires, donc le 30 juin, et on va parler d'émotions et de parcours client. À très bientôt.
Au revoir, passez une bonne journée.